Vous écoutez le podcast du 7 décembre 2020 du cabinet Vogel et Vogel. Ce qui retient notre attention aujourd'hui est un point de vigilance. L'autorité de la concurrence n'a pas octroyé un permis de soumission concertée aux filiales des groupes par sa décision 20-19 du 25 novembre 2020. Cette décision est d'importance car elle constitue une modification de la pratique décisionnelle de l'autorité en matière de pratiques dites concertées entre sociétés d'un même groupe dans le cadre d'un appel d'offres. Quelle était la situation auparavant ? Traditionnellement, la pratique décisionnelle ainsi que la jurisprudence considéraient que le choix par plusieurs filiales d'un même groupe de soumissionner de façon séparée à un appel d'offres relevait systématiquement des règles de concurrence applicables aux ententes. Les entreprises pouvaient donc être sanctionnées sévèrement au titre du droit des ententes en cas de concertation entre elles. Mais en s'appuyant sur l'arrêt éco-service de la CJUE, Cour de justice de l'Union européenne, du 17 mai 2018, l'autorité exclut désormais l'application de l'article 101 du TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux accords conclus entre une société mère et ses filiales, dans la situation particulière où les filiales ne sont pas autonomes et constituent donc, avec leur société mère, une unité économique. Attention toutefois. La portée de la décision doit être largement circonstanciée, et cette décision ne doit pas conduire à un encouragement des pratiques de concertation entre filiales sur leurs réponses dans le cadre d'appels d'offres. Il y a au moins trois raisons qui imposent aux soumissionnaires liés de demeurer prudents lorsqu'ils répondent séparément à un appel d'offres. Premièrement, le droit européen de la concurrence retrouve application lorsque les filiales déterminent de façon autonome leur comportement sur le marché. Deuxièmement, le droit de la commande publique a toujours vocation à s'appliquer. Et enfin, troisièmement, le droit interne de la concurrence pour des ententes purement internes n'a lui toujours pas évolué et reste applicable, même si cela pourra évoluer. Mais penchons-nous tout d'abord sur l'absence d'invocabilité de la décision par les filiales autonomes. On l'a dit, la portée de la décision de l'autorité est limitée aux filiales qui ne bénéficient d'aucune autonomie quant à leur comportement sur le marché. Faute d'autonomie des filiales par rapport à la société mère qui exerce sur celle-ci une influence déterminante, ce groupe de sociétés constitue donc une entreprise unique. Puisque ces sociétés sont analysées comme une seule entreprise au sens du droit de la concurrence, il est cohérent que le droit européen de la concurrence ne s'applique pas aux accords conclus au sein de cette entité. En effet, on ne peut condamner une entité économique pour s'être entendue avec elle-même. Par exemple, si une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital social de sa filiale, elle est présumée exercer une influence déterminante sur sa filiale. Cette présomption étant seulement réfragable, il est possible de prouver que la société mère n'exerce pas d'influence déterminante sur la filiale. Et si cette preuve devait être rapportée, les accords conclus entre elles seraient alors soumis au droit des ententes puisqu'elles constitueraient des entités autonomes. Par le passé, les déclarations des dirigeants d'une filiale de France Télécom lors d'une audition, avouant naïvement leur totale autonomie commerciale, a ainsi permis de caractériser une entente entre deux sociétés du même groupe. Deuxième point de vigilance, l'application du droit de la commande publique, qui reste d'actualité. Dans le cadre de soumission intra-groupe, le droit français de la commande publique reste opposable aux entités liées. Il peut même aboutir à leur exclusion dès lors que la soumission de réponses concertées a pour effet de tromper l'adjudicateur dans son analyse des offres, en vertu de l'article L2141-9. Premier point. En dépit de son caractère facultatif, il n'en demeure pas moins que l'adjudicateur apprécie seul à la fois la suffisance des éléments et indices lui permettant de soupçonner une entente, mais également la pertinence des justifications fournies par l'entité soupçonnée et le caractère proportionné de l'exclusion. Dans notre cas d'étude, le pouvoir adjudicateur pourrait ainsi sanctionner la soumission concertée d'offres faussement indépendantes par deux filiales autonomes d'une même société mère avant toute autorité de concurrence. Second point, si une filiale devait remporter l'appel d'offres à la suite d'une réponse établie en concertation avec d'autres soumissionnaires appartenant au même groupe, les candidats lésés ainsi que l'acheteur trompé pourraient faire valoir qu'il serait fondé à agir à son encontre au regard du principe de l'égalité de traitement qui préside à la passation des marchés publics. Il résulte en effet de ce principe que lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments mettant en doute le caractère autonome et indépendant des offres présentées par certains soumissionnaires, il est tenu de vérifier si ces offres sont effectivement autonomes et indépendantes. Il va sans dire que les liens capitalistiques entre différents soumissionnaires sont de nature à instiller un tel doute. La CJUE l'explicite dans l'arrêt Ecoservice, du 17 mai 2018. Dernier point de vigilance, cette décision reste cantonnée en l'état aux ententes de dimension européenne. En plus de l'application générale du droit de la commande publique, il doit être relevé que le droit interne des ententes est toujours susceptible de s'appliquer aux ententes purement internes. Tant l'arrêt éco-service de la CJUE du 17 mai 2018 que la décision de l'autorité de la concurrence du 25 novembre 2020 ont statué sur des pratiques susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres. Il s'agit donc de décisions dans lesquelles le droit européen de la concurrence trouvait à s'appliquer. Dès lors, quid des ententes qui ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres ? Il se pourrait que l'autorité de la concurrence continue de considérer, comme elle l'a fait dans sa décision du 24 septembre 2018, que si des entreprises liées déposent plusieurs offres séparées, je cite, « elles sont réputées manifester ainsi leur autonomie commerciale et garantir aux yeux du pouvoir adjudicateur l'existence d'une concurrence entre elles, de sorte que, dans l'hypothèse où ces offres multiples auraient été établies en concertation, elles ne peuvent dès lors plus être considérées comme indépendantes et leur coordination peut être qualifiée d'entente anticoncurrentielle. » Il est certes possible que l'autorité fasse évoluer sa pratique décisionnelle à la lumière du droit européen, celui-ci lui servant de guide d'analyse utile pour l'application du droit interne, mais il convient de rester prudent tant que la pratique décisionnelle de l'autorité n'a pas évolué. Eu égard à l'ensemble des éléments que l'on vient de mentionner, la décision commentée ne crée pas un droit général pour des soumissionnaires liés de se concerter sur les offres qu'ils déposent séparément lors d'un appel d'offres. Pour rappel, nous avons souligné trois points de vigilance, à savoir que, dès lors qu'il était démontré que les filiales étaient autonomes, elles étaient soumises au droit des ententes. Que le droit de la commande publique continuait à s'appliquer, avec là aussi des sanctions possibles en cas de concertation de filiales. Et enfin, que cette décision ne concerne que les pratiques qui affectent le commerce entre États membres et non pas les pratiques internes. En revanche, cette décision peut être utilisée comme argument en défense, pour permettre d'échapper à des sanctions au titre du droit de la concurrence. Il sera alors nécessaire de démontrer l'absence d'autonomie de la société visée par les autorités de concurrence ou les juridictions. Merci d'avoir écouté le podcast du cabinet Vogel et Vogel. Retrouvez cet article et tous les autres sur notre site vogel-vogel.com.